Comment augmenter votre énergie mentale en utilisant l'énergie des phosphènes? Cours pratique d'application du mixage phosphénique en pédagogie, méthode du docteur Francis Lefébure. Vous venez d'acquérir la méthode du docteur Lefébure, production du Centre international de diffusion et de recherche phosphénique, école du docteur Lefébure, Paris, France. L'école du docteur Lefébure continue les travaux du docteur Lefébure, entrepris dès 1945. Méthode déposée, tout droit réservé pour tout pays. Cette méthode va vous apprendre comment développer votre mémoire, votre capacité d'attention, votre créativité, de manière à être encore plus efficace dans vos études. Cet outil de travail est indispensable autant pour vous-même que pour vos enfants. Il apporte une amélioration rapide dans vos études, qu'elles soient du niveau primaire, secondaire ou universitaire.
Tout d'abord, permettez-nous de vous présenter le docteur Francis Lefébure. Professeur de sciences et de mathématiques, il a aussi assumé un poste de médecin scolaire pendant plusieurs années. De par sa qualité de chercheur, il a su reconnaître et comprendre les difficultés rencontrées tant par les élèves que par les enseignants. C'est cette connaissance pratique qui explique les résultats spectaculaires obtenus par ceux et celles qui utilisent sa méthode, le mixage phosphénique en pédagogie. Ces découvertes, réalisées en 1959 concernant l'action de la lumière sur le cerveau, l'amenèrent en 1964 à appliquer un principe très simple, particulièrement adapté à tous les milieux éducatifs, scolaires et universitaires. Il avait en effet découvert le moyen d'introduire une énergie supplémentaire dans l'ensemble de la masse cérébrale par l'utilisation méthodique des phosphènes, c'est-à-dire les taches de couleur changeantes que l'on perçoit après avoir fixé une source lumineuse. Ce principe physiologique provoque en effet une profonde stimulation cérébrale dont toutes les capacités intellectuelles bénéficient. En tant que médecin et physiologue, le docteur Lefébure a ainsi pu répondre au principal problème que se pose dans toute forme d'apprentissage et d'enseignement, c'est-à-dire le moyen d'aller dans le sens du fonctionnement cérébral afin d'améliorer les capacités mentales et intellectuelles dans leur ensemble. L'action régénératrice de la lumière sur l'organisme est connue depuis les années 50. Récemment, des chercheurs ont utilisé l'action structurante de la lumière sur le système nerveux pour traiter des dépressifs chroniques. Ils ont en effet constaté que dans certaines formes de dépression, les rechutes les plus graves surviennent en automne, période où la luminosité décroît. Ces techniques sont de plus en plus utilisées pour rétablir l'horloge biologique chez les personnes qui souffrent de troubles du sommeil graves. Au laboratoire du sommeil de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris et à l'hôpital du Vinatier à Lyon. Le docteur Lefébure est un pionnier dans cette recherche. En 1959, il affirmait déjà, preuve de laboratoire à l'appui, que la lumière est un puissant stimulant des capacités mentales et intellectuelles. Il est le seul à avoir fait des recherches dans le sens du développement cérébral à l'aide de courtes fixations de sources lumineuses. Le cours est divisé en étapes. Chaque étape est une progression vers l'acquisition de cette merveilleuse technique qu'est le phosphénisme. Ces étapes sont progressives. Voici comment procéder. Dans un premier temps, nous vous conseillons de vous installer confortablement et d'écouter les cassettes dans l'ordre. Ne passez à l'exercice suivant que lorsque vous avez bien saisi l'exercice précédent. Maintenant, vous êtes familiarisé avec le programme d'apprentissage du mixage phosphénique en pédagogie.
Comment faire un phosphène? Concrètement, on obtient un phosphène en fixant pendant environ 30 secondes une lampe blanche opaline, c'est-à-dire dont on ne voit pas le filament, de faible puissance, 75 watts, que l'on place à 2 mètres au moins devant soi. Il n'est pas nécessaire de chronométrer la fixation, nous nous servirons des différentes phases du phosphène pour déterminer cette durée. Tout le monde peut faire des phosphènes. Un enfant peut débuter à partir de 8 mois, âge où il commence à avoir la force suffisante pour retourner une petite lampe de poche, après avoir fait lui-même un phosphène. Beaucoup de personnes âgées font régulièrement des phosphènes pour éviter les pertes de mémoire. La méthode du mixage phosphénique est enseignée depuis maintenant plus de 30 ans. À ce jour, 52 000 exemplaires du livre du docteur Lefébure, Le mixage phosphénique en pédagogie, qui en est à sa 12e édition, ont été vendus dans les pays de langue française. Des dizaines de milliers de personnes la pratiquent chaque jour assidûment, aussi bien des enfants, des étudiants et des adultes de tout milieu, de toute profession. Nous pouvons donc garantir formellement que si l'on respecte les normes d'éclairage et de fixation telles qu'elles sont décrites plus loin, cet entraînement est absolument sans danger pour les yeux normaux. La seule contre-indication à la pratique du phosphénisme est le cas de glaucome, c'est-à-dire l'hypertension des liquides de l'œil. Il est facile de savoir si l'on a un glaucome, car il se manifeste par une douleur dans le fond de l'œil. La pratique des phosphènes met en évidence le glaucome non déclaré, ce qui nous a valu des remerciements de personnes qui ont pu ainsi être traitées à temps. Les personnes qui récemment ont subi une opération aux yeux doivent s'abstenir de faire des phosphènes dans un premier temps, mais cela ne les empêche pas de travailler avec la méthode à partir de l'acouphène, équivalent auditif du phosphène, dont nous parlerons plus loin. De ce fait, tout le monde peut pratiquer la méthode, même sans fixer de source lumineuse. Dans les cas de myopie, d'hypermétropie ou astigmatisme, pour pratiquer le phosphénisme, la quantité de lumière reçue est toujours la même. Or, c'est cette énergie qui compte pour notre opération de mixage. Si l'on peut faire des phosphènes avec une lampe, il est bien évident que l'on peut en faire avec le soleil. Dans le cadre de cette étude, nous en déconseillons la pratique, car cela demande de prendre quelques précautions élémentaires qu'il faut absolument connaître et respecter. Pour pratiquer avec le soleil, il est nécessaire d'avoir une formation solide dans les diverses applications du phosphénisme. Par contre, on a tout avantage à pratiquer avec une lampe. Elle permet de s'adapter progressivement aux fortes luminosités, de faire travailler l'œil en douceur et surtout d'en retirer des bienfaits intellectuels remarquables. L'utilisation régulière d'une lampe ne cause pas de fatigue. La lampe offre les avantages de multiples applications en toute sécurité et en toutes circonstances.
Faut-il un matériel spécial pour pratiquer le phosphénisme? Il est nécessaire d'utiliser une ampoule conçue spécialement pour le phosphénisme. Lorsque l'on étudie sérieusement avec les phosphènes, il vaut mieux utiliser une ampoule d'agrandisseur photo dans un réflecteur dont le granité a été obtenu par électrolyse. Ce type d'appareillage diffuse la lumière de façon parfaitement homogène, ce qui donne un phosphène bien lumineux. Le réflecteur augmente le diamètre du phosphène, ce qui permet d'obtenir un phosphène plus intéressant. Avec ce type de réflecteur, il n'y a aucun risque de fatigue oculaire, même si, comme beaucoup d'étudiants en période d'examen, vous pratiquez plusieurs heures d'affilée par jour. Ces réflecteurs sont diffusés par les centres phosphéniques.
Installation de la lampe. La lampe peut être installée soit dans votre chambre, soit dans votre bureau, là où vous travaillez habituellement. Elle doit être d'accès facile, placée entre 1,50 m et 3 m de distance selon l'espace disponible, à peu près à hauteur des yeux. Il est inutile de se placer plus près de la lampe, les résultats ne seront pas meilleurs et la chaleur risque de fatiguer les yeux. Pour faire fonctionner votre lampe, vous devez disposer d'une télécommande, ce qui vous permettra très facilement d'allumer et d'éteindre au cours des exercices. En effet, après la fixation de la lampe, vous ne devrez pas avoir à vous déplacer afin de conserver la qualité de votre phosphène. Dernier point, ayez à portée de la main votre bandeau oculaire. Il vous permettra de vous placer en obscurité à certains moments des exercices. Pour installer votre matériel, arrêtez maintenant votre magnétophone. Vous êtes maintenant prêt à faire votre première expérience. Dans la pièce où vous vous trouvez, prenez soin de fermer les rideaux, éteignez éventuellement l'éclairage. Placez le bandeau sur votre front afin de le faire glisser facilement sur les yeux le moment venu. Vous allez à présent faire votre premier phosphène.
Placez-vous face à la lampe à 2 mètres de distance. Actionnez la télécommande pour allumer la lampe. Fixez la lampe en évitant de bouger les yeux, ce qui déformerait le phosphène. Les yeux doivent fixer le centre de la lampe, mais sans contraction et sans tension au niveau des muscles des yeux et du visage. Évitez de bouger les yeux, mais par contre, vous pouvez scier ou cligner des paupières. Cela ne gêne pas la formation du phosphène et permet d'humecter les globes oculaires. Il se peut qu'il larmoie un peu au début. Cela ne fait rien. Le phosphène se formera quand même. Et ce larmoiement permet d'humidifier les yeux. Conservez votre regard sur la lampe. Je vous indiquerai le moment où vous pourrez l'éteindre. Cette fixation va durer une trentaine de secondes. Lorsque je vous dirai d'éteindre la lampe, vous pourrez mettre le bandeau en prenant soin de ne pas appuyer sur les globes oculaires. Éteignez maintenant votre lampe. Baissez votre bandeau et gardez les yeux fermés sans crisper les paupières. Vous êtes donc maintenant en obscurité. Vous voyez à présent une tache de couleur qui apparaît dans votre champ visuel. Cette tache est en général jaune, entourée d'un liseré rouge. Certaines personnes ont peut-être du blanc, du gris ou du vert. Mais la couleur prédominante du phosphène, pour le moment, doit être jaune ou jaune-vert, bordée d'une teinte rouge, rose ou orange. Votre phosphène va progressivement évoluer au niveau des couleurs. Il va devenir rose, puis passer au violet. Il va ensuite passer au bleu, puis au bleu sombre, et certaines personnes percevront un phosphène de couleur noire. Maintenez votre attention sur le phosphène et observez les couleurs qui se succèdent régulièrement. Prenez le temps de contempler le phosphène. Vous observerez que les couleurs sont agréables. On est bien souvent surpris de découvrir que l'on peut produire d'aussi belles couleurs. Continuez à observer le phosphène. La durée du phosphène est d'environ 3 minutes. vous pouvez maintenant arrêter cette première expérience, ôter votre bandeau et rouvrir les yeux. Vous venez de faire un post-phosphène, c'est-à-dire un phosphène consécutif à l'éclairage.
Nous allons renouveler l'expérience. Allumez votre lampe. Fixez le centre de la lampe sans bouger les yeux. Détendez-vous. Clignez les paupières normalement. Conservez votre regard sur la lampe. Éteignez votre lampe, mettez votre bandeau. Observez les couleurs de votre phosphène, sa brillance. Votre phosphène peut être jaune ou vert. Le rouge va gagner progressivement sur le jaune. Observez bien les couleurs. Les couleurs changent progressivement. Regardez le centre du phosphène et le liseré autour qui change progressivement. Regardez calmement. Appréciez la brillance du phosphène. Vous voyez maintenant que le phosphène devient bleu. Progressivement, la phase bleue disparaît. Pour faire place à une tache noire, ou en tout cas foncée. Nous appellerons cette tache le phosphène négatif. Durant cette phase, certaines personnes peuvent observer une lueur grisâtre, que le docteur Lefebure appelle lueur diffuse.
Avant de renouveler une troisième fois l'expérience du phosphène, nous allons examiner ensemble et expliquer les différentes observations que vous avez pu faire et qui seraient différentes des explications données précédemment. Vous avez peut-être constaté que le phosphène ne reste pas fixe dans le champ visuel. Il peut disparaître et réapparaître de manière plus ou moins régulière. Il se peut aussi qu'il glisse très nettement dans le champ visuel, alors que les yeux n'ont pas bougé. Dans ce cas, il est inutile de chercher à le suivre. Il suffit de conserver le regard devant soi, toujours sans tension, pour que le phosphène réapparaisse spontanément au centre. Lorsqu'il se déplace ainsi, il donne l'impression de s'échapper soit horizontalement, soit à l'oblique, ou encore on a la sensation qu'il tombe verticalement ou s'élève. On peut également percevoir une pulsation du phosphène, qui se traduit par la sensation qu'il s'éloigne et se rapproche du visage. Sa surface paraît diminuer et s'accroître régulièrement. Enfin, on peut percevoir un léger tremblement des bords du phosphène, un net balancement du phosphène, sans que le mouvement des yeux intervienne. Une rotation lente de sa surface sur elle-même. Ou encore peut-on voir le phosphène tourbillonner légèrement dans le champ visuel. En règle générale, on ne perçoit pas tous les rythmes du phosphène, mais on en perçoit toujours au moins un. Et cet étrange comportement peut être observé tout au long de l'évolution des couleurs. Les différents mouvements du phosphène sont caractéristiques d'un certain travail cérébral. Si nous voyons le phosphène évoluer de cette manière rythmique, c'est parce que les processus cérébraux sont avant tout rythmiques. Le cerveau ne travaille pas de façon continue, mais de façon rythmique. En fait, les phosphènes nous montrent très exactement comment fonctionne notre cerveau. Ils sont l'expression des rythmes cérébraux qui régissent l'ensemble des activités de notre psychisme et de notre organisme. Notez bien, si vous avez perçu plusieurs phosphènes dans votre champ visuel, c'est simplement que vous avez bougé les yeux durant la fixation.
Nous allons maintenant refaire un troisième phosphène. Allumez votre lampe. Fixez le centre de la lampe sans bouger les yeux. Détendez-vous. Clignez les paupières normalement. Conservez votre regard fixé sur la lampe. Regardez tranquillement. Éteignez maintenant votre lampe. Faites glisser votre bandeau sur les yeux. Observez tranquillement l'évolution de votre phosphène. Cette fois-ci, vous allez décrire la succession de couleurs jusqu'au moment où le phosphène atteindra la couleur la plus foncée. Souvenez-vous, tout à l'heure nous avions une certaine succession de couleurs. Vous les retrouvez maintenant. Observez bien. Notez aussi la dimension de votre phosphène. Vous paraît-il petit, grand? Observez. Votre phosphène est-il brillant? Notez bien. Continuez à observer tranquillement l'évolution de votre phosphène jusqu'à la fin de la cassette.
Avant d'aborder la quatrième expérience avec le phosphène, nous allons vous indiquer comment déterminer le moment d'éteindre la lampe sans vous soucier de regarder votre montre. Lorsque vous fixez la lampe en vue d'obtenir un phosphène, vous avez remarqué, au cours des expériences précédentes, que la lampe se colore au bout de quelques instants. Vous pourrez alors éteindre votre lampe. Ce sont les couleurs du phosphène que vous percevez à travers la lumière. Avec toutes ces informations, vous allez maintenant tenter seul l'expérience du phosphène. Allumez votre lampe et fixez-la. Continuez à fixer votre lampe et observez sa couleur. Dès que vous percevrez que votre lampe est teintée de bleu, arrêtez-la, mettez le bandeau et observez durant les 3 minutes votre phosphène. Vous venez de faire seul l'expérience du phosphène selon le schéma suivant. Vous avez déterminé les 30 secondes de fixation en observant la teinte que prend la lampe. Dès que vous avez observé que celle-ci devient bleutée, vous avez éteint votre lampe et observé durant les 3 minutes le phosphène.
Grâce au phosphène, nous provoquons la transformation de l'énergie lumineuse en énergie mentale. Pour cela, nous cherchons à produire le phosphène le plus intense avec un minimum d'éclairage. Si l'on dépasse les temps de fixation que nous venons de donner, à savoir 20 à 30 secondes, on n'obtient pas de meilleurs résultats. Au contraire, il y a même un effet de saturation. Avant d'utiliser le phosphène pour l'étude, il est nécessaire de faire quelques séances d'observation afin de s'habituer à sa présence. En effet, on est souvent gêné au début par ses couleurs et au lieu de reporter son attention sur l'étude, on se laisse captiver par le phosphène. En s'habituant à sa présence, on n'éprouve plus cette attraction des couleurs et l'on peut travailler efficacement tout en bénéficiant de l'énergie du phosphène. C'est pourquoi, avant de commencer une étude, vous referez un phosphène pour l'observer en obscurité ou avec le bandeau sur les yeux. Même si nous n'incluons pas encore le phosphène dans l'étude proprement dite, vous profiterez quand même, sans vous en rendre compte, de cette stimulation. Les enfants s'amuseront beaucoup à observer les couleurs du phosphène et eux aussi en profiteront. Ce sera de plus un jeu qui les familiarisera avec les phosphènes. De temps en temps dans la journée, lorsque vous aurez quelques minutes de libre et juste avant de commencer une étude, vous en profiterez pour faire un ou deux phosphènes avec la lampe et vous l'observerez tranquillement. Fin de la première étape.
Comment améliorer l'attention et la mémoire par le mixage phosphénique? Dans la leçon précédente, nous avons observé les divers comportements du phosphène. Si vous avez pris le temps de refaire quelques phosphènes de temps en temps, vous êtes à présent habitué à voir évoluer les couleurs. Il ne vous gênera donc pas lors d'un travail mental. À présent, nous allons observer les effets que produit le phosphène sur la pensée, et vous apprendrez à l'utiliser pour développer votre capacité d'attention et de mémoire. Le mixage phosphénique est une technique très reposante pour le système nerveux. L'énergie qui s'en dégage provoque en effet une profonde détente. De plus, la pratique du mixage ne fait pas perdre de temps à l'enfant ni à l'étudiant, puisqu'il s'agit d'une méthode qui s'associe à l'étude. Ce n'est donc pas une méthode à étudier en plus des matières à apprendre, mais au contraire une méthode qui s'applique pendant l'étude.
Jusqu'à présent, vous avez observé le phosphène bien en détail, ce qui vous a permis de mieux comprendre l'outil que vous allez utiliser et de vous y accoutumer. Cependant, faire des phosphènes seul ne développe rien. Pour que le travail avec les phosphènes soit efficace, il est absolument nécessaire de mêler une pensée au phosphène. C'est le principe du mixage phosphénique. Il existe plusieurs façons de pratiquer le mixage phosphénique et nous allons les étudier tour à tour. La première observation que nous allons effectuer pour bien saisir le principe du mixage phosphénique a pour but de vous habituer à la présence du phosphène tout en faisant un travail mental, et d'autre part, d'observer les effets du mixage sur la pensée. Vous allez tout d'abord choisir un objet que vous avez chez vous, mais cet objet ne doit pas se trouver dans la pièce où vous êtes actuellement. Vous allez travailler sur le souvenir de l'objet. Le premier mode de mixage consiste à avoir une pensée précise à l'esprit pendant la présence du phosphène. En l'occurrence, la pensée précise sera l'objet que vous avez choisi. Dans un premier temps, Vous allez penser à cet objet sans allumer la lampe, de manière à observer la qualité de la pensée. Cette simple observation va vous donner d'importants renseignements sur votre propre pensée. Lorsque vous arrêterez votre magnétophone, vous penserez, pendant environ 2 minutes, à l'objet que vous avez choisi. Vous tâcherez d'évaluer la qualité du souvenir de l'objet. Ne cherchez pas à chronométrer la durée de l'observation, évaluez approximativement sans vous en inquiéter. Pour effectuer cette observation sans fausse feigne, pendant environ 2 minutes, arrêtez maintenant votre magnétophone.
Vous avez donc pensé à un objet durant quelques minutes. Quelle a été la qualité de cette pensée? Était-elle plutôt nette, plutôt vague, très présente ou imprécise? Plus important, avez-vous pu conserver la même pensée à l'esprit pendant tout ce temps? Vous avez peut-être trouvé là une première difficulté, car la pensée a pu s'éclipser par moments, puis ressurgir à la conscience alors que vous l'aviez oubliée. Une autre image mentale a pu remplacer l'idée de l'objet contre votre volonté. Ou encore, vous n'avez pas perçu l'objet dans sa totalité, mais seulement de façon parcellaire, c'est-à-dire le haut de l'objet, puis le bas, ou encore un côté, puis l'autre, mais très rarement l'objet dans son entier. Il se peut que vous n'ayez pas pu conserver l'objet sous le même angle de vision, et qu'au contraire, vous ayez eu l'impression qu'un mouvement autour de l'objet, ou que l'objet lui-même se déplaçait. Il a aussi pu se déformer, et donner naissance à des images, plus ou moins logiques, parfois complètement incompréhensibles même. Des pensées parasites, sans rapport avec l'objet, ont également pu surgir. Quels que soient les phénomènes que vous ayez constatés, vous en conclurez sans doute que vous avez des problèmes de concentration, puisque vous n'avez pas pu maintenir constant le souvenir de l'objet. Certains considéreront au contraire qu'ils ont pu maintenir la pensée à l'esprit durant tout le temps d'observation, sans que cela leur ait posé de problème. La majorité des personnes décrivent cette grande difficulté à maintenir une seule idée à l'esprit, ne serait-ce que durant quelques secondes, ainsi que les différents comportements de la pensée que nous avons décrits. En réalité, il ne s'agit nullement d'un problème de concentration. Ce n'est que la constatation d'un fait évident, qui semble pourtant aller à l'encontre de cette fameuse notion de concentration. Cependant, la notion de concentration ne correspond à aucune réalité physiologique. Vous observerez en effet que dans la vie quotidienne, nous avons sans cesse un bouillonnement de pensée à l'esprit, et que lors d'une réflexion, il est fréquent que l'on passe d'un thème à un autre, très différent, sans même nous en rendre compte. Or, nous avons vu que les phosphènes sont instables, et ne cesse de se transformer et d'évoluer. Nous savons maintenant que les phosphènes sont l'expression directe des rythmes du cerveau. Il est donc parfaitement logique et normal que la pensée suive la même évolution que le phosphène, c'est-à-dire qu'elle change constamment, qu'elle se déforme et se transforme, sans que la volonté intervienne. La pensée étant régie par les rythmes cérébraux, il est parfaitement normal qu'elle ne puisse se stabiliser et rester telle qu'elle, comme une photo figée. Étant donné le fonctionnement rythmique du cerveau, il serait effectivement inquiétant que la pensée reste statique. Il n'y aurait pas, alors, de capacité créatrice. En fait, il est impossible de maintenir longtemps une même pensée à l'esprit. C'est une impossibilité physiologique. S'entraîner à conserver longtemps une même pensée à l'esprit, ou encore chercher à créer un vide mental permanent ou momentané en empêchant les pensées de venir à la conscience revient à détraquer complètement ses propres rythmes cérébraux. Ce qui explique les maux de tête que les personnes qui s'entraînent ainsi ont de manière constante, accompagnées d'une fatigue permanente. On n'obtient pas une meilleure concentration en s'entraînant ainsi, même longtemps. Bien au contraire, on ne réussit qu'à perturber le bon fonctionnement du cerveau. Tous les expérimentateurs observent qu'après avoir pratiqué longtemps ce genre d'exercice, ils ont du mal à revenir à la réflexion. Ils n'arrivent pas à réfléchir de nouveau. La réflexion est paralysée, ce qui, on en conviendra, ne va pas dans le sens de l'épanouissement de la personnalité. Or, ce qui nous intéresse dans le cadre du phosphénisme, ce n'est pas de paralyser la pensée et la réflexion, mais au contraire d'améliorer les processus mentaux. Pour cela, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'aller dans le sens naturel des processus cérébraux. Dans la pratique, cela va se traduire par le fait de laisser la pensée évoluer spontanément, de prendre simplement conscience de son contenu et d'en suivre l'évolution sans effort. En laissant la pensée suivre naturellement son cours, on se laisse, par là même, porter par ses propres rythmes cérébraux, c'est-à-dire que l'on permet enfin à la pensée de s'organiser et de se développer selon les lois physiologiques, et non selon des lois mécaniques sans rapport avec la nature réelle de la pensée. Cette attitude est extrêmement importante. Elle détermine la perception de processus mentaux à côté desquels on peut facilement passer sans en avoir conscience. On risque de se plaindre de ne pas avoir de résultats, alors qu'en réalité, on aura empêché l'évolution naturelle de la pensée et des processus mentaux, simplement parce qu'on aura voulu tout contrôler, ce qui n'a pas de sens lorsque l'on comprend que les capacités mentales sont régies par des rythmes physiologiques spontanés, comme ceux que nous montrent les phosphènes.
Afin d'observer l'effet du phosphène sur la capacité d'attention, nous allons refaire cette même observation, mais cette fois avec phosphène. Vous observerez bien sûr la qualité de la pensée, mais vous tâcherez de la laisser évoluer librement, même si des pensées sans rapport avec le thème choisi vous viennent à l'esprit. Il va être important, maintenant, d'apprendre à observer le contenu et le comportement de votre pensée, mais en la laissant évoluer naturellement. Pour cette nouvelle observation, vous prendrez le même objet que précédemment. Vous commencerez à penser à l'objet dès le début de la fixation. Puis, vous éteindrez la lampe lorsque vous percevrez la coloration sur la lampe. Ensuite, sans vous préoccuper du phosphène, sans reporter votre attention sur ses couleurs, vous observerez simplement l'évolution de la pensée sans faire d'effort pour maintenir l'objet à la conscience. Vous allez bientôt arrêter votre magnétophone. Vous le remettrez en marche lorsque le phosphène aura disparu. Pour refaire un phosphène et effectuer ce premier mixage, arrêtez maintenant votre magnétophone.
Vous venez de faire un premier mixage. Le plus difficile a certainement été de laisser la pensée passer d'un thème à un autre, sans rapport entre eux. Si vous avez fait l'effort de ramener l'objet à la conscience, vous avez sans doute à nouveau ressenti cette sensation assez désagréable de tension. On ne se débarrasse pas facilement de ces vieilles habitudes. Il se peut que vous ayez eu du mal à passer à l'objet, parce que le phosphène était très présent, puis que vous n'ayez plus perçu le phosphène lorsque la pensée revenait à la conscience. Et vous aurez pu observer une partie de cache-cache entre le phosphène et la pensée. Dans ce cas, il faut se contenter d'observer le phénomène, sans chercher à vouloir placer de force la pensée. Cela fait partie d'une phase d'adaptation au phosphène. Après un peu de pratique, on s'aperçoit que la pensée et le phosphène finissent par coexister. Cela signifie que l'énergie provoquée par la lumière s'est diffusée dans l'ensemble de la masse cérébrale. Si vous avez pu suivre le fil spontané de la pensée, vous aurez pu constater qu'elle s'enrichit d'éléments nouveaux. Tout d'abord, les pensées paraissent plus présentes, même celles qui sont sans rapport avec le thème de départ. Ensuite, l'objet a tendance à disparaître, mais il revient plus souvent à l'esprit, et cela se fait tout à fait spontanément. De plus, il est souvent beaucoup plus net et plus précis que lorsque l'on l'observe sans phosphène. Il peut même donner la sensation de se trouver plus près de soi. Sa taille peut également être supérieure à sa taille réelle. Les détails sont plus nombreux et s'imposent spontanément à l'esprit. L'objet peut être toujours perçu de façon parcellaire, mais les détails sont plus importants. Les couleurs apparaissent avec plus de précision et de nuance. En outre, des souvenirs liés à l'objet peuvent revenir sans que l'on les ait recherchés. On peut avoir à nouveau un mouvement autour de l'objet, ou un mouvement de l'objet lui-même, associé à une perception très précise de l'environnement de l'objet. Par exemple, la table ou le meuble sur lequel il se trouve, ou encore la pièce dans son ensemble. Tout ceci correspond à un enrichissement de la pensée, un enrichissement de l'idéation. Et si l'objet n'est pas revenu souvent à l'esprit, ce qui arrive parfois, les pensées qui se sont spontanément imposées à la conscience étaient souvent beaucoup plus nettes que d'habitude, à tel point que vous avez pu avoir l'impression d'une plus grande luminosité des images mentales et d'une très grande sensation de présence de ces images ou idées, ou encore d'avoir vous-même été très présent dans la situation perçue. Il arrive aussi que l'objet ne revienne pas à l'esprit, mais qu'il soit remplacé par des préoccupations qui nous tiennent particulièrement à cœur. On s'aperçoit alors que l'on n'a pas de pensée parasite et que toute la réflexion converge vers ce thème, ce qui peut apporter une optique et des idées nouvelles.
Ce sont là différents effets du mixage. Le fait d'avoir eu une pensée à l'esprit pendant la présence du phosphène amplifie l'ensemble des rythmes cérébraux, ce qui densifie la pensée de façon extraordinaire et lui confère une animation très particulière. C'est cette grande intensité de la pensée qui fait apparaître beaucoup plus de détails, ce qui accroît spontanément la netteté et la précision. Par le mixage, la capacité d'attention et le nombre des associations d'idées sont augmentées dans des proportions considérables. Certaines personnes cherchent, dès le départ, à avoir une pensée volontairement précise et nette. Il est très important de souligner qu'il ne s'agit pas de voir l'objet tel qu'il est réellement, mais d'en garder un souvenir même vague. Le simple fait de mêler cette idée au phosphène suffit largement pour tirer tous les bienfaits du mixage. Il est donc inutile de chercher à voir physiquement cet objet, ni à le voir dans le phosphène. Nous travaillons simplement sur le souvenir de l'objet. Il suffit de penser que l'expérience porte sur l'objet que vous avez choisi. Il se peut que vous n'ayez pas observé de différence entre la pensée mixée au phosphène et la pensée habituelle. Dans ce cas, ne vous inquiétez pas. Continuez l'audition de la cassette. Les exercices suivants et le cumul de phosphène vous rendront cette densification de la pensée très perceptible. Si vous le souhaitez, vous pouvez refaire cette expérience de mixage. Dans ce cas, arrêtez maintenant votre magnétophone. Suite des exercices de mixage phonémique sur la cassette numéro 2.